Et si on se laissait transporter par une merveilleuse histoire? Bienvenue dans Il était un roman, le podcast littérature jeunesse. Je suis Séverine et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour découvrir avec toi les aventures du professeur Lindenbrock et de son neveu Axel à travers le roman Voyage au centre de la Terre, écrit par Jules Verne. Pour rester informé des derniers épisodes, je t'invite à t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Allez, c'est parti! Chapitre 38. Mais pourquoi donc mon oncle avait-il évoqué les noms de messieurs Mill Edwards et de Quatrefages, des savants français respectés et reconnus? Il faut savoir que quelque temps avant notre départ, un événement important lié à la paléontologie s'était produit. Le 28 mars 1863, des fouilles se tenaient en France et elles permirent de déterrer une mâchoire humaine cachée à plus de 4 mètres sous terre. Ce fossile représentait une grande première, car jamais telle découverte n'avait été effectuée dans le passé. Cette trouvaille inédite fut même accompagnée de haches de pierre et de silex taillés. Tout le monde se prit de passion pour cette grande nouvelle. L'engouement suscité ne s'arrêta pas aux frontières de la France, l'Angleterre et l'Allemagne suivirent l'affaire de près. Certains doutaient de l'authenticité de l'ossement, mais des savants de l'Institut français, parmi eux messieurs Mill Edwards et de Quatrefages, prirent l'affaire à cœur. Ils se firent les plus ardents défenseurs de ce procès de la mâchoire, comme l'appelèrent les Anglais. Les géologues du Royaume-Uni, qui croyaient fermement à la vérité de cette découverte, furent rejoints par des savants d'Allemagne, et parmi eux, au premier rang, le plus fougueux, le plus enthousiaste, mon oncle Lindenbrock. L'authenticité d'un fossile humain datant de l'époque de l'apparition de l'homme il y a presque 4 millions d'années, semblait donc incontestablement démontrée et admise. Ainsi, ces circonstances expliquent notre réaction face à la découverte de ce crâne humain tout près de la mère Lindenbrock. On comprendra donc les stupéfactions et les joies de mon oncle, surtout quand 20 pas plus loin, il se retrouva face à un corps humain. Son parfait état de conservation nous sidéra. Ce cadavre étalé devant nous présentait une peau tendue, des membres encore moelleux, des dents intactes, une chevelure abondante, des ongles des doigts et des orteils d'une grandeur effrayante. Je restais abasourdi devant cette apparition d'un autre âge. Mon oncle, habituellement si causant et loquace, se taisait. Nous avions soulevé, redressé ce corps et palpé son torse. Il nous regardait avec ses yeux ronds et vides. Après quelques instants de silence, l'oncle reprit son habit de professeur. Otto Lindenbrock, emporté par son tempérament, oublia les circonstances de notre voyage, le lieu où nous nous trouvions et l'immense caverne qui nous entourait. Nul doute qu'il se crut au Johannum, car il prit sa voix comme lorsqu'il enseignait à ses élèves et s'adressant à des spectateurs imaginaires, il dit
« Messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter un homme de l'époque quaternaire. De grands savants ont nié son existence, d'autres tout aussi grands l'ont reconnu. Je sais bien que la science doit se méfier des découvertes de ce genre. Durant ma carrière, j'ai vu, lu, été témoin d'actes de charlatans, de mensonges, de fausses découvertes. J'ai appris à faire attention. Mais ici, le seul doute serait une injure à la science. Le cadavre est là. Vous pouvez le voir, le toucher. Ce n'est pas un squelette, c'est un corps intact. »
Le professeur prit le cadavre fossile et le manipula avec soin pour mieux le montrer à son audience inventée. Il reprit.
Vous le voyez, il est de race blanche. Son crâne possède une forme ovale avec des pommettes plates et une mâchoire alignée. Je crois pouvoir dire que ce corps humain appartient à la famille japétique, répandue des Indes jusqu'à l'Europe occidentale. Oui, messieurs, nous sommes en présence d'un homme fossile. Il vécut à la même époque que les mastodontes dont les ossements innombrables nous entourent. Mais vous dire par quel chemin il est arrivé là, jusque dans cette énorme cavité du globe, je ne me le permettrai pas. L'homme est bel et bien là, entouré des ouvrages de sa main, de ses haches, de ses silex taillés qui ont constitué l'âge de pierre. Ainsi, je ne peux mettre en doute son authenticité.
Le professeur se tut et j'éclatai en applaudissements conquis. D'ailleurs, mon oncle avait raison. Un autre indice incontestable fut la présence d'autres corps que nous effleurions de nos pieds à mesure de nos pas. Mon oncle pouvait même choisir le plus merveilleux d'entre eux pour convaincre les plus sceptiques. Mais une question grave se posait. De quoi ces êtres étaient-ils morts ? Jusqu'ici, seuls les monstres marins et les poissons nous étaient apparus vivants. Mais dans ces plages désertes, se cachait-il encore un de ces hommes en vie ? Chapitre 39. Pendant une demi-heure encore, nous piétinâmes ces couches d'ossements. Nous allions en avant, poussés par une vive curiosité. Quelles autres merveilles renfermaient cette caverne ? Quel trésor pour la science ! Mon regard s'attendait à toutes les surprises, mon imagination à tous les étonnements. Nous nous étions tant enfoncés dans ce cimetière que les rivages de la mer avaient disparu de notre vue. Le professeur, imprudent, ne s'en inquiétait guère. Alors que nous avancions silencieusement sous cette lumière électrique habituelle, notre espace environnant changeait. La vapeur disparaissait. Les rochers, montagnes et bois éloignés prenaient une forme étrange. Après une marche de presque 2 kilomètres, apparut le début d'une immense forêt. Cette fois-ci, aucun champignon ne l'habitait. La végétation datait de l'époque tertiaire dans toute sa splendeur. Des lianes entremêlées et tortueuses reliaient de grands palmiers d'espèces aujourd'hui disparues à de superbes pins, des cyprès et des thuyas. Un tapis de mousse recouvrait le sol moelleux tandis que des ruisseaux murmuraient à travers les arbres. Seulement, la couleur manquait car toute cette végétation était privée de soleil. Tout se confondait dans une même teinte passée et tirant sur le marron. Les feuilles apparaissaient dépourvues de leur verdeur et les fleurs, sans couleur et sans parfum, semblaient fabriquées d'un papier décoloré. Mon oncle Lindenbrock s'aventura sous ces bois gigantesques. Je le suivis avec une certaine inquiétude. Fait incroyable, en un seul et même endroit cohabitaient des espèces provenant de différents pays. Citons par exemple un chêne adossé à un palmier, ou encore un eucalyptus australien s'appuyant contre un sapin norvégien. Soudain, je m'arrêtai net. Je retins mon oncle de la main. La lumière diffuse permettait d'apercevoir les moindres objets dans la profondeur des taillis. J'avais cru voir, mais je doutais, non ? Réellement, de mes propres yeux, je voyais des formes immenses se déplacer sous les arbres. Des animaux gigantesques, tout un troupeau de mastodontes, cette fois-ci bien vivants. J'apercevais ces grands éléphants dont les trompes s'agitaient sous les arbres. Ils arrachaient en nombre les feuilles pour se nourrir et faisaient craquer les branches. Ce rêve où j'avais vu renaître tout ce monde vivant au temps de la préhistoire se réalisait enfin. Nous étions là, seuls, dans les entrailles du globe, notre sort remis entre les mains de ces géants. Mon oncle regardait. Il me saisit le bras et s'exclama.
« Allons-y, en avant !»«
Non, il n'en est pas question. Nous n'avons pas d'armes. Que ferions-nous au milieu de ce troupeau de colosses ?»« Venez, mon oncle, venez ! Aucune créature humaine ne peut affronter la colère de ces monstres sans se mettre en danger !»
« Nulle créature humaine ! Tu te trompes, Axel ! Regarde ! Regarde là-bas ! Il me semble apercevoir un être vivant, semblable à nous, un homme !»
Je regardais, perplexe, et j'haussais les épaules. Mais contre toute attente, je dus me rendre à l'évidence. À quelques centaines de mètres de nous, appuyé contre un tronc, un être humain gardait ce troupeau de mastodontes. Oui, un être humain, monstrueux. Ce n'était plus l'être fossile dont nous avions auparavant découvert le cadavre, mais un géant capable de commander ces monstres. Sa taille dépassait les 3 mètres. Sa tête, grosse comme la tête d'un buffle, disparaissait dans les broussailles d'une chevelure folle. Nous étions restés immobiles, stupéfaits. Pouvant être aperçus, il fallait fuir. Je traînais mon oncle qui, pour la première fois, se laissa faire et je m'écriai : « Venez, venez !» Un quart d'heure plus tard, nous étions hors de vue de ce redoutable ennemi. Et maintenant que j'y repense tranquillement, maintenant que le calme s'est recomposé dans mon esprit, que des mois se sont écoulés depuis cette rencontre étrange et surnaturelle, je me demande ce qu'il faut en penser ou croire. Tout ceci me paraît totalement impossible. L'épuisement a certainement influencé nos yeux qui n'ont pas vu ce qu'ils voyaient. Aucune créature humaine n'existe dans ce monde souterrain. Aucun homme n'habite ces cavernes au fond du globe. Aucun homme qui ne se soucierait des habitants à la surface sans pouvoir communiquer avec eux. C'est insensé, absolument insensé. Peut-être s'agissait-il d'un singe, oui, un singe. Mais un homme vivant, impossible. Cependant, nous avions quitté la forêt, totalement muets et accablés par notre stupéfaction. Nous courions malgré nous, nous fuyions comme dans le plus effrayant des cauchemars. Instinctivement, nous revenions vers la mer Lindenbrock. Tout en foulant le sol, nous ne reconnaissions pas notre chemin, tout semblait confus, nous nous sentions perdus. Le professeur partageait mes doutes et il ne s'y reconnaissait pas non plus. Je lui dis : « Évidemment, nous n'avons pas abordé à notre point de départ. » Mais en contournant le rivage, nous nous rapprocherons certainement de Port Gretel.
Dans ce cas, il est inutile de continuer cette exploration et le mieux est de retourner au radeau. Mais ne te trompes-tu pas, Axel ?
Il est difficile de se prononcer car tous ces rochers se ressemblent. Il me semble pourtant reconnaître l'endroit où Hans a construit son embarcation. Nous devons être près du petit port.
Mais non, Axel, nous devrions au moins retrouver trace de nos propres pas. Et je ne vois rien.
« Mais je vois, moi » m'écriai-je en m'élançant vers un objet qui brillait sur le sable.
« Qu'est-ce donc ?»«
Voilà, voilà, regardez !» Je montrai à mon oncle un poignard que je venais de ramasser.
« Tiens, tu avais emporté cette arme avec toi ?»«
Moi, non, mais je suppose que vous, oui. »«
Non, pas que je sache, je n'ai jamais possédé cet objet. »«
Et moi, encore moins, mon oncle !»
Voilà qui est étrange.
Mais non, les Islandais ont souvent des armes de ce genre. Elle doit appartenir à Hans, qui l'a perdue sur cette plage.
Hans !
Fit mon oncle en secouant la tête. Il se mit à examiner l'arme avec attention. D'un ton grave, mon oncle reprit.
Axel, ce poignard est une arme du XVIe siècle. Une véritable épée, celle que les gentilshommes portaient à leur ceinture pour donner le coup de grâce. Elle est d'origine espagnole. Elle n'appartient ni à toi, ni à moi, ni aux chasseurs.
Que voulez-vous dire exactement ?
Regarde, sa lame est couverte d'une couche de rouille qui ne date ni d'aujourd'hui, ni d'un siècle. Axel, nous sommes sur la voie de la grande découverte. Cette lame est restée abandonnée sur le sable depuis 100, 200, 300 ans et s'est abîmée sur les roches de cette mer souterraine.
Mais elle n'est pas venue seule. Sa pointe est usée et elle ne s'est pas tordue d'elle-même. Quelqu'un nous a précédés.
Oui, un homme. Cet homme a sûrement gravé son nom quelque part avec ce poignard. Mettons-nous à chercher.
Et entièrement absorbés dans notre recherche, nous voilà longeant la haute muraille, observant les moindres fissures qui pouvaient se transformer en galeries. Nous arrivâmes ainsi à un endroit où le rivage se resserrait, laissant un passage large de 2 mètres au plus. Entre 2 avancées de roc, on apercevait l'entrée d'un tunnel obscur. Là, sur une plaque de granit, apparaissaient 2 lettres mystérieuses rongées sur les bords, les initiales du brave et fantastique voyageur. Mon oncle s'écria.
A et S. Arne Saknussemm. Toujours lui. Arne Saknussemm.
Et c'est la fin de l'histoire pour aujourd'hui. Je t'invite à revenir et à écouter très vite la suite des aventures du professeur Lindenbrock et d'Axel. Et si toi aussi tu aimes les podcasts d'Il était un roman, merci de me laisser 5 petites étoiles sur ton application podcast et viens t'inscrire sur le site internet ilétaitunroman.com. Merci pour ton écoute et à très vite.